VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de la capitale américaine, vendredi 5 octobre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, le docteur congolais Denis Mukwege et l'activiste yézidi Nadia Mourad, prix Nobel de la paix 2018. Au moins 3 ressortissants chinois tués par une foule en colère en Centrafrique. Au Togo, manifestation de l'opposition à Lomé pour demander la libération des détenus politiques. Nous ferons le suivi au Sénat américain de la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Ne ratez pas l'actualité économique et l'e-sport, mais d'abord le journal. Docteur Denis Mukwege, chirurgien gynécologue qui répare les femmes violées dans l'est de la RDC, est le prix Nobel de la paix de 2018. Le comité Nobel a reconnu le mérite du médecin congolais qui lutte contre les violences sexuelles employées comme arme de guerre dans les conflits. Le point avec Eddie Sango.
C'est du bloc opératoire que Dr Mukwege a appris l'annonce, surpris par des youyou et autres hurlements des patientes et autres personnes à l'hôpital de Panzi à Bukavu. Ce prix Nobel constitue pour lui un pas important vers la réparation aux victimes des viols et des violences sexuelles. Le gynécologue de 63 ans a justement dédié sa récompense aux femmes de tous les pays meurtries par les conflits et confrontées à la violence de tous les jours. Dr Mukwege a soigné plus de 50 000 victimes des viols en 2 décennies à Panzi, clinique qu'il a fondée en 1999 à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, partie la plus touchée par les conflits armés que le pays a connus. Parmi ses patientes, se comptent des femmes, des enfants et même des bébés. Il a toujours dénoncé les violences sexuelles comme des armes de destruction massive, hélas, pas chères et efficaces. Dr Mukwege partage son prix avec la yézidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, excellente également dans la lutte contre les violences sexuelles employées comme armes de guerre dans les conflits. Le Nobel de la paix sera formellement remis à Oslo le 10 décembre.
Et la réaction du docteur Mukwege, recueillie par notre correspondant Ernest Mouhiro.
C'est avec une grande humilité que j'apprends cette nouvelle alors que j'étais en pleine opération chirurgicale dans mon hôpital. Aujourd'hui, mes pensées vont directement et orientées vers toutes les survivantes de viols et violences sexuelles en zone de conflit à travers le monde. Ce prix Nobel traduit la reconnaissance de la souffrance et le besoin d'une réparation juste en faveur des femmes victimes de viols et violences sexuelles dans tous les pays du monde et sur tous les continents. Je dédie donc ce prix Nobel aux femmes de tous les pays du monde meurtries par les conflits et confrontées à la violence de tous les jours.
Dans l'est de la République démocratique du Congo toujours, 4 militaires et 2 civils ont été tués hier soir dans l'attaque d'un poste de commandement de l'armée à Beni. Cette nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais ADF s'est tenue lors d'une réunion à laquelle assistait le chef des opérations dans la région. Des massacres attribués aux ADF ont fait au moins 700 civils tués depuis 2014 dans la région de Beni. 3 ressortissants chinois ont été tués jeudi dans le sud-ouest de la Centrafrique. Ils ont été lynchés par une foule en colère qui les accusait d'avoir été à l'origine de la noyade d'un jeune leader de la région. À Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Des sources locales ont confirmé à VOA Afrique que le drame est survenu après qu'une équipe chinoise d'exploitation minière a demandé au président de la jeunesse de Sosonakumbu, dans l'ouest, de les accompagner sur un site minier installé sur la rivière Kadéi. Chemin faisant, la pirogue dans laquelle se trouvait l'équipage a chaviré et le jeune leader local est porté disparu. La nouvelle a provoqué la colère des habitants de Sosonakumbu qui s'en sont pris aux exploitants miniers chinois au sein de la brigade de la gendarmerie locale, tuant 3 d'entre eux et en blessant plusieurs autres. Selon une source proche de l'hôpital de Beberati, à 65 km de Sosonakumbu, 3 blessés étaient dans une situation critique alors que les 3 corps ont été rapatriés peu avant midi, heure locale à Bangui. Dans la capitale, le porte-parole du gouvernement a dénoncé un acte de banditisme qui ne restera pas impuni. La tension est encore vive dans cette localité minière du sud-ouest de la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Et toujours au sujet de la RCA, les Nations Unies ont sanctionné un casque bleu mauritanien suspecté d'agression sexuelle sur mineurs en Centrafrique. La MINUSCA, présente depuis 2014 en Centrafrique et qui rassemble une vingtaine de nationalités dans ses troupes, a été entachée par des accusations d'agression sexuelle qui auraient été commises entre 2013 et 2015. Dans le nord du Burkina Faso, une dizaine de terroristes ont été neutralisés mercredi lors de l'intervention aérienne de la force française Barkhane. L'opération faisait suite à l'attaque de la gendarmerie d'Inata qui a coûté la vie à un gendarme. Le groupe djihadiste Boko Haram a tué un militaire tchadien après avoir pilonné une base de l'armée tchadienne proche du Nigeria la nuit passée à Litri. Et c'est ce que rapporte l'AFP, citant une source sécuritaire. Les tirs ont duré toute la nuit, selon le site Intelligence Group. La branche de Boko Haram affiliée à l'État islamique a revendiqué l'attaque. Au Cameroun, au moins deux personnes ont été tuées, une quinzaine blessées dans un incendie qui s'est déclaré jeudi soir dans le quartier de Bessengue de Douala. Un incendie qui a duré jusqu'à ce matin. On compte une cinquantaine de maisons brûlées. L'origine reste inconnue. Présidentielle au Cameroun toujours, le camp de Maurice Kamto, un des principaux candidats d'opposition, affirme qu'une fraude massive est en préparation avec la caution d'Elecam, l'organe chargé d'organiser le scrutin. Selon le MRC, il y a des cas de falsification de cartes d'électeurs et des enregistrements de votants toujours en cours alors que le processus officiel est terminé. Nous n'accepterons aucun résultat si ce type de fraude continue, prévient le parti, alors que le scrutin est prévu dimanche. Au Rwanda, la justice a ordonné la libération sous caution de l'opposante Diane Rwigara, farouche critique du président Paul Kagame. Elle a été emprisonnée plus d'un an dans l'attente de son procès. Âgée de 37 ans, elle est poursuivie pour falsification de documents dans le cadre de sa tentative de participation à la présidentielle d'août 2017, ainsi que pour incitation à l'insurrection. Les juges ont estimé que l'accusation avait échoué à présenter des preuves crédibles pour le maintien en détention. Son procès doit reprendre en novembre. Au Togo, la population de Lomé a répondu à l'appel du Front citoyen Togo Debout. C'est sous un soleil de plomb que la marche a démarré et confinée dans la zone de Bay, réputée fief de l'opposition. La revendication principale, libération des détenus politiques. Le point à Lomé avec notre correspondante Kayi Lawson.
Selon les organisateurs de la manifestation, il s'agit de faire pression sur le gouvernement togolais pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Pour Maître Raphaël Kpandé-Adjaré, deuxième porte-parole du Front citoyen Togo Debout, il n'y a pas lieu de laisser ces innocents reconnus comme tels par la CEDEAO croupir en prison. Le Front citoyen Togo Debout a été appuyé dans cette manifestation par la coalition des 14 partis de l'opposition dont les leaders étaient présents dans les rues aux côtés des organisateurs. Au sein de la population, le message passe bien. Les manifestants se disent déçus, car argumentent-ils que depuis que la CEDEAO a demandé la libération de ces détenus, ils ne comprennent pas pourquoi le pouvoir de Lomé s'obstine à les maintenir en détention. Pour finir, ils se susurrent sur les lèvres que la solution de la crise togolaise est autre que électorale. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le juge Brett Kavanaugh a franchi aujourd'hui une nouvelle étape sur la route semée d'embûches de la Cour suprême avec un vote de procédure favorable au Sénat qui ouvre la voie au vote final de confirmation, peut-être dès samedi. Nani Talani.
C'est un pas de plus vers la Cour suprême pour le juge Kavanaugh. Les sénateurs, qui ont le dernier mot sur les nominations à vie au sein de la plus haute juridiction des États-Unis, se sont prononcés par 51 voix contre 49. On pouvait s'attendre à ce résultat, les républicains disposant d'une courte majorité à la Chambre avec 51 sièges sur 100. Mais le vote était incertain, car trois de leurs membres avaient laissé planer le doute sur leurs intentions jusqu'à la dernière minute. Finalement, Jeff Flake et Suzanne Collins ont voté pour que le Sénat puisse se prononcer sur la confirmation du juge Kavanaugh. Une sénatrice clé républicaine, Lisa Murkowski, s'y est opposée, tandis qu'un démocrate, Joe Manchin, a rompu avec son groupe en votant oui. Le président américain Donald Trump s'est dit très fier du Sénat qui a ouvert la voie au vote final en vue de la confirmation de son candidat à la Cour suprême des États-Unis. Toutefois, ce vote préliminaire ne reflète pas automatiquement l'issue du vote final qui devrait intervenir samedi. Les sénateurs ne sont pas liés par leur premier choix.
Deux Palestiniens, dont un adolescent de 14 ans, ont été tués ce vendredi par des tirs israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations et de heurts le long de la frontière. C'est ce qu'indique le ministère gazaoui de la Santé. Par ailleurs, 376 personnes ont été blessées, dont 126 par balle et 7 sont dans un état critique, parmi lesquels un volontaire médical, a ajouté le ministère. L'armée israélienne a rapporté qu'environ 20 000 Palestiniens avaient pris part en plusieurs points de la frontière à cette nouvelle protestation, la dernière en date d'une mobilisation en cours depuis plusieurs mois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
Début des liaisons internationales d'Air Sénégal SA. Ce vendredi matin, un Airbus A319 de la compagnie s'est envolé de Dakar à destination d'Abidjan. Il reliera quotidiennement la capitale sénégalaise à Abidjan et Cotonou au Bénin. Des vols à destination de Bissau et Banjul sont aussi prévus. Fin octobre, Air Sénégal SA envisage d'ouvrir progressivement des dessertes de Praia, Conakry, Bamako et Ouagadougou. À partir de février 2019, la compagnie assurera la ligne Paris-Dakar. La Tunisie a enregistré une hausse de près de 17% de touristes en 2018, soit plus de 6 millions sur un an. Les recettes de leur côté ont dépassé le milliard d'euros avec une croissance de 27,6%. Les touristes européens et russes constituent l'essentiel de la hausse de fréquentation. Le nombre de visiteurs maghrébins, qui représente la moitié des entrées, n'a augmenté que d'environ 17%. Le taux de chômage américain est tombé à son plus bas niveau depuis 1969 à 3,7%. D'après le département du travail, il y a eu une diminution de 270 000 personnes, dont une majorité de femmes. Toutefois, la croissance américaine a culminé au deuxième trimestre à son plus haut en 4 ans, en rythme annuel. La Banque centrale américaine estime que les États-Unis ont atteint le plein emploi. Elle constate aussi que les entreprises ont de plus en plus de mal à pourvoir des postes, faute de main-d'œuvre disponible ou correspondant à leurs besoins.
L'enquête sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La sélection kenyane en grande souffrance.
Alors que le Kenya a décroché ses 3 premiers points dans les éliminatoires de la CAN 2019 et s'apprête pour la double confrontation face à l'Éthiopie, la sélection est confrontée à des difficultés financières. Conséquence, la Fédération kenyane de football a demandé aux joueurs de rallier directement la capitale éthiopienne pour la rencontre et a indiqué que les primes de match ne seront pas disponibles. La presse locale parle aussi de la situation du sélectionneur français Sébastien Migné, qui n'a pas été payé depuis 4 mois.
Rachid Raflaoui prend les rênes du WAC.
Très convoité en ce début de saison en RD Congo, notamment par Sanga Balende et Saint-Éloi Lupopo et au Mali, par le Real de Bamako, le Marocain a finalement déposé ses valises en Côte d'Ivoire. Rachid Gaflaoui a été nommé entraîneur de Williamsville Athletic Club. Il a paraffé un contrat de 2 ans et sera secondé par son prédécesseur Kablan Marcelin et Boye Norbert. Le WAC occupe la dernière place au classement avec seulement 1 point en 4 journées de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire.
En Europe, Cristiano Ronaldo est prêt à jouer malgré les accusations de viol.
Visé par des accusations de viol ici aux États-Unis, CR7 figure dans l'effectif de la Juventus Turin pour le match prévu demain sur le terrain de l'Udinese. La question de sa présence à Udinese se posait après l'annonce jeudi par le sélectionneur du Portugal Fernando Santos de l'absence de la star lors des 4 prochains matchs de la Seleção. Lundi, la police de Las Vegas a annoncé avoir ouvert l'enquête sur les accusations portées par Catherine Mayorga, 34 ans aujourd'hui, qui affirme avoir été violée par Ronaldo en juin 2009.
Et Mourinho juge ces résultats inacceptables.
José Mourinho a reconnu que la forme actuelle de Manchester United est inacceptable. Le club connaît son pire départ après 7 journées de championnat depuis 1989. Mourinho a enduré une semaine éprouvante après sa défaite en championnat samedi dernier à West Ham 3-1, puis un match nul à domicile contre Valence en Ligue des Champions mardi 0-0, sur fond de dispute avec ses cadres Paul Pogba, Antonio Valencia ou encore Alexis Sanchez.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Diriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Cap sur Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, l'annonce de l'octroi du prix Nobel de la paix au docteur Denis Mukwege est accueillie avec effervescence à l'hôpital de Panzi. Denis Mukwege dédie son prix Nobel à toutes les femmes du monde meurtries par les conflits et confrontées à la violence de tous les jours. Reportage d'Ernest Mouhiro.
C'est dans l'effervescence que Bukavu accueille l'annonce du prix Nobel de la paix décerné au docteur Denis Mukwege. À l'hôpital de Panzi, des centaines de femmes chantent et dansent en glorifiant l'éternel pour cette circonstance. Une survivante des violences sexuelles âgée de 19 ans ne cache pas sa satisfaction.
En tout cas, premièrement, je remercie pour mon Dieu parce qu'il est si merveilleux. Parce que moi, donc je suis pas d'ici, je suis venue de Kinshasa. J'ai rencontré tant de muscades à la route. Surtout précisément au nord que vous avez. En tout cas, j'ai été violée par des hommes bien armés. Je suis venue ici comme que m'avions accueilli avec des moments chers. Donc, je me sens bien à l'aise. Le traitement, tout est bien. En tout cas, je demande à Dieu de ne pas laisser cet hôpital.
Prenant la parole parmi ces malades, le docteur Mukwege déclare que ce prix aura toute sa signification, que s'il joue un rôle de mobilisation pour changer la situation des victimes des violences sexuelles en zone de conflits armés. Avec humilité, il dédie ce prix Nobel de la paix aux femmes meurtries par le conflit. Denis Mukwege.
Ce prix Nobel traduit la reconnaissance de la souffrance et le besoin d'une réparation juste en faveur des femmes victimes de viols et violences sexuelles. J'ai été témoin des crimes, des guerres commises contre les femmes, les jeunes filles, les fillettes, les bébés. Cette violence qui est commise sur leur corps se passe non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais également dans plusieurs autres pays. Chères survivantes du monde entier, je voudrais vous dire qu'à travers ces prix, le monde vous écoute et refuse l'indifférence. Le monde refuse de rester les bras croisés face à votre souffrance.
Pour le docteur Antoine Fondico, président de l'Ordre des médecins au Sud Kivu, c'est une reconnaissance qui valorise toute la République démocratique du Congo.
C'est un sentiment de joie, de satisfaction. Le docteur Mukwege fait un travail exceptionnel pour reconstruire des vies qui ont été brisées, redonner l'espoir à ces femmes qui ont tout perdu, leur dignité, féminité. Et nous pensons que c'est un travail énorme qui devait être reconnu un jour. Et aujourd'hui, c'est pour nous une grande joie.
Rémi Kassindi, défenseur des droits de l'homme, estime que le parcours de Denis Mukwege et son engagement doivent servir de modèle aux autres Congolais.
Il fait un travail de titan que nous respectons. Avec cet engagement, nous sommes venus ici pour l'encourager et lui dire que nous sommes avec lui dans son combat et nous continuerons à suivre son modèle et son combat pour la paix et la vérité dans le monde.
Ça fait plus de 20 ans que le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, soigne les femmes victimes de violences sexuelles. De Bukavu, Ernest Mouhiro, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
La campagne électorale au Cameroun, qui s'achève demain, s'est déroulée jusqu'ici sans incident. Malgré les assurances de la commission électorale sur la transparence du scrutin, un parti de l'opposition accuse Élections Cameroun, la commission électorale, et le gouvernement de préparer une fraude massive. De Yaoundé, la correspondance de Bagessikoura.
Ce matin, devant la presse, Paul-Éric Kenge, directeur de campagne d'un des poids lourds de l'opposition, Maurice Kamto, a accusé ELECAM, la commission électorale, de travailler à favoriser le candidat au pouvoir en n'affichant pas les listes électorales dans les délais de 8 jours requis par la loi.
À ce jour, nous n'avons aucune liste affichée. Pourtant, le sujet est prévu désormais dans, je crois, dans la 48 heures.
Paul-Éric Kenge a aussi parlé de cas de corruption des électeurs que son parti aurait constaté.
Les citoyens passent de maison en maison dans les quartiers à travers tout le pays pour solliciter les numéros de carte de l'électeur et de CNI des habitants pour retirer les cartes de l'électeur contre versement d'argent.
Il dit en outre avoir réuni des preuves de ces 10 cas de fraude en préparation et promet une résistance farouche en cas de manipulation des résultats au soir du scrutin. Au sein du SDF, le principal parti d'opposition, on se prépare aussi à parer à toute tentative de fraude électorale. Defo Umbe Sangong est député du SDF. dans la région de l'Ouest.
Il faut que la population nous soutienne, c'est-à-dire voter et retourner au bureau de vote le soir. Être au bureau de vote pour empêcher les LECAP de faire n'importe quelle fraude qu'ils ont l'habitude de faire avec l'administration.
Sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, la campagne bat son plein pour les militants du RDPC, le parti de Paul Biya. Alors, question, leur candidat est-il favorisé par ELECAM et le gouvernement?
Non, ça c'est mal pensé, parce que pour dire vrai, le chef de l'État, son excellence, monsieur le président Paul Biya, reste le seul candidat qui a plus de militants, des militants honnêtes, des militants raisonnables, des militants crédibles. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour que. On n'a pas besoin d'être manipulé pour lui accorder nos voix.
Quant à ceux qui disent que le système en place prépare une fraude, chacun a son opinion. Nous sommes sereins, nous avançons à rang serré pour la victoire finale de notre champion.
Cette semaine, ELECAM, l'organe en charge d'organiser le scrutin de ce dimanche, a dit que tout était réuni pour la tenue d'un scrutin transparent et crédible. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Au Rwanda, la justice a ordonné aujourd'hui la libération sous caution de l'opposante Diane Rwigara. Poursuivie pour falsification de documents et incitation à l'insurrection, elle a passé plus d'un an en prison dans l'attente de son procès. Sa mère, arrêtée en même temps qu'elle, a été elle aussi relâchée. Le 15 septembre, le président Paul Kagame a gracié plus de 2000 prisonniers, dont l'opposante Victoire Ingabire. Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Paris, le professeur de sociologie à l'université Paris, un Panthéon Sorbonne et spécialiste des Grands Lacs, André Guichawa.
C'est une ouverture des portes de personnes qui étaient emprisonnées et qui sont désormais libres. Elles ne sont pas exonérées de poursuites ultérieures ou d'un retour, mais c'est un geste de ce point de vue-là très important. Maintenant, l'ouverture politique est-elle nécessaire et les opposants libérés ont-ils les moyens de continuer à l'incarner? Oui, au niveau de l'image et de ce qu'a représenté la peine qu'ils viennent de supporter. Maintenant, au niveau des marges de manœuvre, au niveau du contexte juridique, eh bien, leurs moyens demeurent certainement extrêmement faibles. Et leur représentativité incertaine, en tout cas difficile à exprimer.
Il y a Victoire Ingabire qui dit que c'est le Rwanda qui est en train de gagner en maturité politique. Est-ce votre avis?
Oui, assurément, parce que ces libérations répondent certes à une volonté de la présidence et des autorités, mais aussi à une nécessité vis-à-vis de l'intérieur, certainement, et vis-à-vis de l'extérieur. On ne peut pas occuper des charges éminentes sans montrer que, à l'intérieur du pays, on sait respecter les principes dont on est porteur à l'échelle internationale. Quant à l'image que le Rwanda est susceptible de donner à l'extérieur. Diane Rwigara n'est certainement pas l'opposante la plus connue, hein. Victoire Ingabire, elle a joué un rôle plus éminent, alors que Diane n'a pas eu véritablement la possibilité de s'exprimer. Maintenant, en interne, il est probable que la libération de Diane Rwigara est un symbole vraisemblablement plus fort que la libération de Victoire Ingabire, puisque c'est une grande famille Tutsi qui a joué un rôle non négligeable, y compris sous le régime précédent, qui avait affiché ses préférences politiques avec courage et détermination. D'une certaine façon, sa libération peut apparaître comme une volonté de répondre aux récriminations qui pouvaient s'exprimer et qui s'exprimaient effectivement au sein du propre camp au pouvoir.
André Guichawa, professeur de sociologie à l'université Paris en Panthéon-Sorbonne et spécialiste des Grands Lacs. la justice a relaxé aujourd'hui trois acteurs de la société civile emprisonnés depuis avril suite à une manifestation interdite contre la loi de finances. Leur avocat affirme qu'ils n'ont jamais reçu de notification officielle de l'interdiction de la marche. Aucune charge n'a été retenue contre Maïkoul Zodi, Diori Ibrahim et Karim Tonko. Pourtant, lundi, le parquet avait requis 8 mois d'emprisonnement ferme contre ces activistes. Pour réaction, Abdourahmane Dia, adjoint à Niamey, leur avocat, maître Boudal et Fred.
Cette décision ne nous surprend pas. Du moment où nous avons, depuis l'instruction, nous avons toujours dit, vous avez entre les mains, nous avons dit au juge d'instruction qu'il a entre les mains le dossier des innocents. Nous l'avons dit au parquet, nous avons toujours alerté toute la chaîne judiciaire sur le fait que voilà des innocents qui sont aujourd'hui détenus. Il a fallu qu'on vienne devant un juge, un tribunal, vraiment pour qu'il confirme après 6 mois de détention.
Ils ont été libérés après avoir été emprisonnés depuis le mois d'avril pour une manifestation interdite. Donc pour vous, les charges n'étaient pas légitimes.
Il y avait une marche pacifique qui était projetée et dont la déclaration a été faite conformément à la procédure prévue par la loi 2004-35 régissant les manifestations dans notre pays. Si après on nous parle d'une interdiction, il peut y avoir interdiction, oui, mais la loi est claire sur qu'il faut notifier cette interdiction, il faut la faire dans les règles. Dans la procédure, il y a une procédure pour notifier les actes administratifs de cette nature-là. Ça n'a pas été fait. Ils ont appris, étant même en détention, que la manifestation était interdite. Mais eux, ce n'est pas à travers Facebook ou à travers la télé qu'ils ont fait la déclaration de manifestation. Ils ont saisi l'administration et les paralysmes de fonds voudraient que l'administration les réponde à travers des actes et avec accusé de réception. Désormais, la jurisprudence est claire. On ne peut interdire une manifestation ou on ne peut poursuivre un acteur de la société civile que lorsque il n'avait pas respecté une interdiction faite dans les conditions fixées par la loi.
Que vous ont dit vos clients sur leurs conditions de détention? Est-ce qu'ils ont été bien traités?
Honnêtement, je dis, vous savez, il n'y a pas de bonnes conditions en prison. Une prison, dès lors qu'on prive quelqu'un de sa liberté, c'est qu'on ne parle pas de bonnes conditions. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas été maltraités en prison, ça je peux vous confirmer. Et c'est dû au fait que, honnêtement, ils savaient que ce n'est pas des gens qui recevaient des visites des organisations internationales et autres. Donc, vraiment, je ne saurais vous dire qu'ils ont été maltraités.
Maître Boudal et Fred, joint à Niamey. De cette édition, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la présentation Morgane Guiriec. Ainsi pas le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.